France Inter, le 7-9. Intervenez.
Avec Léa Salamé, notre invité ce matin est sociologue. Il enseigne à HEC Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal et au Figaro, ici à Paris. Mathieu Boccoté dialogue avec vous et répond à vos questions. Je salue David au standard. Vous êtes là, David ?
Oui, je suis là.
Allez, on vous écoute.
Bonjour à votre invité. Oui, je vous écoutais au niveau de la réforme de l'école et j'avais du mal à comprendre qu'est-ce que vous voyez de progressiste dans cette nouvelle réforme. Sachant qu'après l'interprétation des textes, en fin de compte, les diplômes, le bac va être local, ce qui fait qu'il n'aura plus la même valeur en fonction de l'école. Et pour l'université, il y a un pendant qui est préférentiel géographique, qui fait que les bons élèves des quartiers populaires passeront après les mauvais élèves des quartiers aisés.
Donc cette réforme, David, vous inquiète ?
Oui, beaucoup, oui.
Et elle vous semble donc pas progressiste du tout ?
Non, pas du tout. Ça me semble un retour en arrière. Enfin, il y avait déjà eu... En 1986, si je ne dis pas de bêtises, une tentative de réforme de Devaquet à l'époque, qui était dans le même sens.
Inquiétude donc de votre part, David. Merci, Mathieu Boccoté.
Premièrement, je ne crois pas avoir dit qu'il s'agissait d'une réforme progressiste. À tout le moins, si elle avait été le cas, j'aurais été peut-être un peu moins porté sur les louanges. Mais une fois que c'est dit, la question qui me semble intéressante avec la réforme Blanquer, c'est moins les modalités particulières d'une réforme qui peuvent toujours être discutées que la philosophie de l'école qui s'exprime à travers là. Et donc, on peut ensuite dire...
Quelle philosophie
c'est là.
Dans la réforme du bac, je veux dire.
Non, la réforme du bac, c'est autre chose. Je parle plus largement. Blanquer arrive. D'accord. Je donne un exemple simplement. Lorsqu'il distribue à quelques étudiants, et en fait quelques milliers, si je ne me trompe pas, les Fables de La Fontaine, vous me direz, c'est un détail. Mais ce n'est pas un détail parce que ça envoie le signal que la littérature est autre chose qu'un divertissement secondaire. Ça la place au cœur de la formation. Lorsqu'il parle de l'importance de la connaissance de l'histoire, vous me direz encore une fois, mais c'est une banalité. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'état de la connaissance historique aujourd'hui, ce n'est pas une banalité de dire que c'est une nécessité presque de civilisation à certains égards. Ensuite, la réforme du bac dans son détail, je regarde ça avec une distance atlantique de ce point de vue. Ce sont des modalités particulières qui ne sont pas sans intérêt, mais le fond des choses, je crois, c'est qu'on cherche à réorienter sur une génération, j'y reviens, sur une génération, la conception qu'on se fera de l'école. On cherchera à restaurer finalement une pédagogie de l'admiration, une pédagogie par les œuvres. De cela, je me réjouis.
Léa ?
Quand vous comparez Emmanuel Macron en France et Justin Trudeau chez vous au Canada, est-ce qu'ils se ressemblent ou pas ? Est-ce que vous diriez que c'est des oasis de progressisme dans un désert populiste généralisé, que ce soit en Europe ou Trump aux États-Unis ?
Je n'utiliserai pas des termes semblables.
Oasis.
Mais désert populiste, oasis, et ainsi de suite. Mais je trouve la comparaison Macron-Trudeau était valable pendant la campagne. Mais ce que je note, c'est que depuis son élection, Macron ressemble de moins en moins à Trudeau, finalement. Parce qu'il faut voir au-delà de leur aspect mondialisé, heureux et fier de l'être. Justin Trudeau n'est pas un homme qui se distingue, disons-le poliment, par une culture politique exceptionnelle. Ce n'est pas un grand réformateur. C'est une forme de mannequin égaré en politique. C'est une caricature de mode qui se retrouve à la tête d'un État avec le privilège d'un nom d'héritier. Alors qu'Emmanuel Macron, me semble-t-il, le président ressemble assez peu au candidat, finalement. Il s'est fait élire sur un créneau et ce qui est marquant, c'est la métamorphose qui s'annonce depuis. Donc, on peut certainement trouver des liens, des points communs entre les deux, mais je n'ai pas l'impression que c'est faire justice à Emmanuel Macron que de le transformer en Trudeau d'outre-Atlantique.
Mais si je pousse votre raisonnement, en fait, vous préférez le président Macron au candidat Macron.
Vous avez tout à fait raison.
Voilà.
C'est-à-dire...
Si je vous entends ce matin, parce qu'il me semble vous avoir vu dénoncer il y a quelques mois le gauchisme culturel d'Emmanuel Macron, le côté multiculturaliste d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression que vous a beaucoup rassuré sur ce sujet.
Je constate simplement qu'on dit quelquefois que la fonction change l'homme, et c'est manifestement le cas dans les circonstances, à moins qu'il ne s'agisse que d'une immense ruse. Mais bon, j'ai tendance à prêter un peu de bonne foi quand même aux gens qui s'engagent en politique. Le candidat Macron était un candidat qui, je crois que c'était à Marseille, il a fait un discours où il énumérait toutes les communautés présentes en France dans une forme de maxi-communautarisme dans les circonstances. Il était prêt à brandir tous les drapeaux disponibles dans le pays plutôt que de mentionner, d'abord, c'était l'homme qui disait aussi, il n'y a pas de culture française. Bon, alors que lui-même incarne tout le contraire de cette idée. Alors, une fois qu'il est... Il est tout à fait critiquable sur plein de points, je ne dis pas le contraire, mais je constate que le président n'est pas simplement un candidat amélioré, mais c'est un autre homme qui s'est révélé ainsi. Ensuite, et je pense que pour la droite française, il y a un défi particulier. Continuer à critiquer Macron comme s'il était encore le candidat et qu'il n'était pas devenu le président, c'est se condamner à tirer en mauvaise direction politiquement.
Mais c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure et vous venez de le dire à l'instant. Est-ce qu'un conservateur est un progressiste intelligent ?
Ah ben vous savez, il y a dans l'histoire du Canada un parti qui s'appelait le Parti progressiste conservateur. Donc toutes les synthèses sont possibles d'une manière ou de l'autre.
Non mais quand on vous entend, on se dit quelle est la différence entre Mathieu Bock-Côté, qui assume parfaitement cette identité politique de conservateur, et un Emmanuel Macron qui le décrit dans des termes qui sont des termes finalement positifs.
Ben je dirais la différence.
Vous pourriez voter pour lui si vous votiez en France.
Je me contente de voter chez nous, c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais la différence de fond, je crois, si on cherche à la trouver, parce qu'il faut pas en chercher de manière artificielle, elle se révèle, je crois, dans ce qu'on pourrait appeler la philosophie plus globale qui s'exprime. Par exemple, dans le rapport à la mondialisation. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de s'inquiéter, vous savez, ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité culturelle, un terme galvaudé, mais qui me semble assez juste pour décrire ce sentiment très inquiétant aujourd'hui que nous sommes contemporains peut-être de la fin d'un monde, la peur de la dépossession culturelle, la peur de la dépossession politique. Je crois que ce sont des sentiments qui sont fondés. Ce ne sont pas que des fantasmes, ce ne sont pas que des peurs irrationnelles. Le rapport à l'enracinement aussi. Manifestement, Emmanuel Macron est un homme enraciné dans la culture française, mais qui fait un peu l'éloge du citoyen du monde mondialisé, disponible pour tous les mouvements de l'époque d'une manière
ou d'une autre. On peut pas être les deux.
En même temps, c'est bon. Évidemment, c'est la condition de la synthèse. Je crois que l'enracinement est la condition du cosmopolitisme intelligent. Ça, je l'ai toujours cru. C'est-à-dire, pour peu qu'un homme soit véritablement enraciné dans sa culture, il peut véritablement se porter vers l'autre. L'universel est alors possible. Je ne suis pas certain, toutefois. Puis c'est là qu'il faut distinguer, je pense, entre Macron lui-même, qui est un homme singulier, et un certain macronisme médiatique qui consiste à récupérer de Macron, peut-être pas la meilleure part, justement, ce progressisme obligatoire devant lequel nous devons nous incliner aujourd'hui.
Je salue Farid.
Oui, bonjour Nicolas, bonjour.
Bienvenue
à tous les auditeurs, les auditrices de France Inter. Écoutez, je repose ma question à un sociologue éclairé, me semble-t-il. Je reviens sur la comparaison avec Trudeau. Au Canada, on va légaliser au mois de juillet, on va faire preuve de pragmatisme, d'un libéralisme pragmatique. Est-ce que donc en France, qui se refuse à avancer, est-ce qu'on est face à une espèce de conservatisme rétrograde ?
On parle de la légalisation du cannabis là, hein ?
Exactement.
Merci Farid pour cette question. Mathieu Bock-Côté vous répond.
Bon, alors Emmanuel, Justin Trudeau, effectivement, la réforme qui va rester finalement de sa... Ben bon, il sera probablement réélu, mais la grande réforme qui l'aura marqué, c'est la légalisation de la marijuana. Cela dit, Justin Trudeau, pour quelqu'un qui s'intéresse, qui traverse l'Atlantique, qui regarde un peu, on est quand même devant, et ça devrait inquiéter ceux qui l'admirent, me semble-t-il, devant une forme de multiculturalisme très radical, qui s'exprime, à mon avis, dans la question du rapport au NICAB, qui a pris beaucoup d'importance au Canada ces dernières années. Automne 2015, dans le cadre de la campagne électorale, la question se pose, est-il possible de prêter son serment de citoyenneté au Canada en NICAB, sans même le soulever ne serait-ce qu'un instant pour dévoiler son visage au moment où on rencontre son pays, finalement. Justin Trudeau nous dit oui, absolument, et depuis quelques années, dans le Canada de Trudeau, les trudeauistes, pour reprendre le mot qui existe chez nous, les trudeauistes nous disent le NICAB devient presque le symbole de la liberté à la canadienne, c'est le symbole d'une diversité pleinement assumée, maximale. Certains vont jusqu'à dire c'est le symbole d'une certaine émancipation féminine, parce que c'est la possibilité pour la femme de se vêtir telle qu'elle le veut en toutes circonstances, sans aucune nuance. Alors, le multiculturalisme canadien, c'est pour ça que j'ai écrit une fois une chronique dans le Figaro sur ce thème-là, c'était mon NICAB au Canada. Eh bien, je ne suis pas certain, regardant ce qu'est la France, que cette espèce de multiculturalisme zélé qui est fondé sur l'inversion du devoir d'intégration, finalement, eh bien, je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron se reconnaisse dans cela.
Mais sur le cannabis, pour répondre...
C'est une question qui me semble absolument, dans les circonstances secondaires, c'est-à-dire il devait à tout prix marquer son mandat d'une réforme qui se veut progressiste. D'ailleurs, la réforme ne se passe pas très bien. Dans les provinces canadiennes, on trouve que c'est bâclé. Mais cela dit, ça va se faire. Ça va être la réforme qui va donner un parfum de jeunesse éternelle à Justin Trudeau.
Léa ?
Je vous entends critique ce matin avec Laurent Wauquiez. Pourtant, est-ce que l'observateur que vous êtes ne reconnaît pas qu'il a un vrai espace politique avec l'affaiblissement du Front National ? Est-ce que vous pensez que le FN de Marine Le Pen s'est terminé ou est-ce qu'elle peut ressusciter ? Et est-ce que Wauquiez peut faire le hold-up qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007 ?
Vous posez une question essentielle. C'est-à-dire, si je suis sévère envers Laurent Wauquiez, c'est peut-être parce qu'il n'est pas à la hauteur de la possibilité historique qui est la sienne. C'est-à-dire, il y a un espace pour la droite aujourd'hui, pour une droite qui ne soit pas qu'une non-gauche. Il y a un espace pour la droite qui soit une droite de l'enracinement, une droite de la continuité historique. Pour peu que le terme ne soit pas mal compris, qu'est-ce que c'est identitaire ? C'est le souci simplement de la continuité historique. Bon, alors ça, oui, il y a un espace pour ça. Effectivement, dans un Front National fragilisé par la médiocrité terrifiante de sa présidente, telle que révélée lors de la présidentielle. Donc, il y a un espace qui se dégage pour refaire l'opération 2007. 67, c'est-à-dire Sarkozy qui récupérait cet espace à travers même le procès de 68. Donc il y a tout un espace qui se dégage. Je pense que si la droite veut exister, elle doit occuper cet espace, elle doit le faire intelligemment, et elle ne doit pas le faire, je crois. Avec Trump, on a, me semble-t-il, le contre-modèle absolu de ce qu'il faut faire. Au-delà de sa victoire, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui croit gagner en multipliant une sorte de comportement agressif, permanent, systématique, croyant retourner à son avantage la version du système médiatique contre lui. La France, ce n'est pas les États-Unis, me semble-t-il. On n'y a pas le même rapport à cette espèce de transgression bas de gamme version Donald Trump. Dans les circonstances, oui, l'espace dont vous parlez existe tout à fait. C'est un espace qu'il a occupé pendant sa primaire. Et d'ailleurs, dans sa primaire, on peut même reprendre la question du candidat et du président. Comme candidat à la présidence des Républicains, il était finalement plus éloquent que tel qu'il est devenu depuis. Donc, il va devoir savoir comment occuper cet espace qui est potentiellement majoritaire. Encore doit-il l'occuper sur le plan des idées davantage que sur le plan du style transgressif.
Mathieu Bock-Côté, comme homme, comme citoyen, comme démocrate, vous réjouissez-vous de ce qu'on appelle la libération de la parole des femmes qu'on voit se déployer depuis l'affaire Weinstein?
Tout dépend de ce qu'on entend par là. Si on parle de la condamnation de l'agression sexuelle, du harcèlement, je pense que tout le monde s'en réjouit d'une manière ou de l'autre. Ça me semble absolument nécessaire de condamner cela. Imaginez une parole sans mais, ça serait inquiétant. Ce ne serait qu'une parole d'enthousiasme.
Je suis entièrement d'accord. C'est par impatience que j'essaye de le deviser.
Bien sûr. Alors, le mais, je crois, se révèle. Je vais vous donner un exemple tout simple. À l'Université Laval, qui est l'université de la ville de Québec, on a cherché à voir, on a sorti une statistique qui ne me revient pas en tête, mais c'était significatif, de, je pense, 40% des femmes ou plus que ça qui se disent qui ont été agressées. Devant cela, on a tous une réaction horrifiée. Mais on constate que dans la définition des violences sexuelles, il y a notamment le regard insistant. Alors, moi, je suis prêt à condamner toutes les formes de violences sexuelles, mais je ne suis pas certain que le regard insistant, ou encore la drague maladroite, ou encore quelquefois la part de la zone de gris qui en est le rapport entre les hommes et les femmes, doit être immédiatement pensée sous le signe de l'agression. Alors, j'espère qu'il est possible, quelques mois après Balance ton porc, d'être un Balance ton porc, ou chez nous on a appelé ça moi aussi, donc un moi aussi, mais. Donc j'espère qu'il est possible d'accompagner...
Donc vous êtes plutôt sur la ligne Catherine Deneuve, Catherine Millet?
Avec quelques nuances quand même. Plusieurs. Je pense qu'il y avait des phrases suffisamment troubles dans cette lettre pour qu'on ne se sente pas obligé d'être le 101e signataire. Il n'en demeure pas.
De toute façon, on ne vous l'a pas proposé.
Non. Et pourtant. Mais dans les circonstances, cela dit, je pense qu'on a exprimé là de légitimes réserves. Ils auraient pu être bien mieux exprimés. Mais je m'inquiète des mouvements. Je m'inquiète en général, cela dit, de la puissance des réseaux sociaux dans notre société. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très inquiétant.
Ils ont peut-être eu un effet libérateur.
Oui, mais. De fait. Mais rajoutons un mais encore une fois, un effet libérateur, mais qui peut quelquefois partir sur le mode du tourbillon. Alors, dénoncer toutes les formes d'agression sexuelle, ça va de soi. Évitons toutefois de basculer dans cette espèce d'esprit de soupçon généralisé où le moindre désir maladroitement exprimé, parce que c'est de ça dont on parle finalement, peut être vu comme l'autre nom de l'agression.
Mathieu Bock-Côté, il est 8h55, mais vous restez avec nous.